Je vous invite à prier. Notre Dieu, Père, nous nous adressons à toi en effet comme à un papa. Et nous te demandons de nous bénir cette soirée. Nous sommes là pour écouter ce que tu as à nous dire. Prépare nos cœurs à entendre et à mettre en pratique. Que ton esprit repose maintenant sur notre frère, que tu sois sa bouche, qu'il soit l'oracle de toi, et que nous puissions entendre encore ce que tu as à nous dire. Nous sommes disponibles à entendre et à écouter. Ouvre nos cœurs. Amen. J'ai passé probablement aujourd'hui par une de mes journées professionnelles les plus dures. Je devais assister à des séances à un niveau le plus haut de société et j'ai été pris dès ce matin dans des, presque un étau qui me tenait au cœur. Et jusqu'à midi, ça a été vraiment une des journées les plus dures. Et j'étais intellectuellement très fatigué. Et à 4h30, n'étonnant plus, je suis sorti, j'ai quitté mon travail et j'arrive à ma voiture. Et je vois que j'ai laissé ce matin à 7h les phares allumés. Alors je savais tout de suite ce que ça voulait dire. La batterie était à plat. Et c'est ce qui est arrivé. Et j'aimerais faire ce rapport. Si nous ne faisons pas attention, notre batterie spirituelle est très rapidement à plat. Et je pense que nous devons demander à Dieu de nous aider à être toujours connectés, de manière à ce que notre batterie ne soit pas à plat. Et la seule chose que j'ai dû faire, c'est téléphoner au TCS, et en attendant le dépanneur, ces versets du psaume 16 me sont venus à l'esprit, que je donne dans une traduction un peu libre. « Tu me feras connaître le sentier de ta vie, en ta présence il y a plénitude de joie. »
Je crois que nous allons passer quelques instants dans la prière, dans l'adoration, afin de, comme on l'a vu ce matin, nous avons vu qu'une des bénédictions de l'adoration était que l'adoration nous ouvre le cœur. Quand les mages se sont approchés de Jésus, il est dit qu'ils se prosternèrent, l'adorèrent, et ensuite ils ouvrirent leur trésor. L'adoration produit ce miracle. L'adoration ouvre notre cœur pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Et je suis convaincu que si nos cœurs ne sont pas ouverts, les plus belles paroles ne peuvent porter du fruit, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi nous avons besoin de nous tenir dans la présence de Dieu quelques instants. Oubliez les soucis de cette journée, les combats, les difficultés, je sais qu'on en a tous. Mais ce soir, le Seigneur veut nous renouveler. Il veut répandre une pluie bienfaisante sur son peuple fatigué. Alléluia. Je le crois. Mais regardons à lui. L'homme ne peut rien faire. Moi, je ne peux rien faire. Vous, vous ne pouvez rien faire. Personne ici ne peut faire quoi que ce soit. Notre attente n'est pas dans un homme ou qui que ce soit. Notre attente est dans le Seigneur, n'est-ce pas vrai? Et je vous assure, lorsqu'on s'attend à lui, l'impossible devient possible. Moi, je m'attends toujours à ce qu'il se passe quelque chose dans les réunions. Toujours, toujours, toujours. Je veux que le Seigneur dépasse ma foi, mon attente, tout. Je veux qu'il se passe quelque chose. Et si nous sommes dans cette attente-là, il ne nous déçoit pas, le Seigneur. Il est fidèle, d'une manière ou d'une autre, il agit, n'est-ce pas vrai? Ainsi, courbons-nous encore quelques instants, puisque prosterner, adorer, veut dire, on l'a vu ce matin, se prosterner jusqu'à terre. Voilà la signification du mot adorer, se prosterner jusqu'à terre. C'est notre âme qui se prosterne devant Dieu dans un amour ardent et dans une contemplation profonde de sa personne merveilleuse, n'est-ce pas vrai? Ainsi, pour préparer nos cœurs à recevoir sa parole, passons juste quelques instants dans l'adoration de notre Dieu. Nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia. Gloire à son nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus en effet pour t'adorer, car c'est toi qui es la source de la vie, la source de la paix, la source de la guérison, la source de renouvellement aussi, Seigneur. C'est auprès de toi que se trouvent toutes ces choses, la sagesse aussi, la délivrance, la consolation. Seigneur, tu connais nos nombreux besoins, mais avant que tu répondes à nos besoins, tu veux, Seigneur, que nous puissions répondre à ton besoin, qui est ce besoin d'être adoré, car tu nous as créés pour cela, et nous ne serons jamais satisfaits avant d'accomplir ce merveilleux ministère que tu nous as donné. Oui, à toi notre louange, Seigneur. Faiblement nos lèvres célèbrent ton nom, mais de tout notre cœur nous le faisons, Seigneur. Alléluia. Merveilleux Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. En toi, gloire à toi, Seigneur. Oh, nous recevons ton amour, nous recevons ta paix, nous recevons tes grâces. Alléluia. Car ta bonté vaut mieux que la vie, Seigneur. Alléluia.
Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Car ta bonté vaut mieux que la vie. J'élèverai mes mains en ton nom. J'élèverai mes mains en ton nom.
Son nom seul soit exalté. Il y a quelque chose de merveilleux dans l'adoration. Plus nous l'adorons, plus nous avons envie de l'adorer, n'est-ce pas vrai? Gloire à son nom. Alléluia. Je crois que le Seigneur a bien ouvert nos cœurs pour entendre sa voix maintenant. Que son Saint-Esprit soit sur nous tous, sur moi aussi, afin que les paroles dites soient inspirées par le Saint-Esprit et non pas dites par la sagesse humaine. Gloire à son nom. Il connaît les besoins de chacun et il veut se révéler selon les besoins de chacun. Il ne faut pas s'étonner lorsque Dieu nous parle directement. Bien souvent, nous disons « Seigneur, parle-moi » et quand il nous parle, on ne veut pas écouter parce que ça ne nous plaît pas. Il ne nous parle pas toujours comme on le voudrait, mais quand c'est le Maître qui parle, je vous assure, c'est merveilleux. Et il y a toujours quelque chose dans les paroles du Maître. Gloire à son nom. Le thème de nos rencontres est une vie de plénitude, une vie intérieure, une vie de témoignage, une vie intérieure. Et en parlant de cette vie intérieure, j'aimerais qu'on parle de la vie intérieure dans la famille ce soir. La vie intérieure dans la famille, et tout spécialement, comment communiquer avec son conjoint. L'art de communiquer avec son conjoint. Nous allons voir cette confession négative qu'il ne faut jamais faire. Et cette confession positive qu'il faut faire pour rétablir le dialogue, approfondir le dialogue, afin que sa bénédiction soit sur nos foyers. J'aimerais qu'on lise quelques versets, si vous le voulez bien, maintenant. Un premier verset dans la première épître à Timothée, chapitre 3, deux versets ici, versets 4 et 5. 1 Timothée 3, 4 et 5. Il est parlé de l'ancien ici, et il est dit de lui, « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, et dans une parfaite honnêteté, car, soulignez bien ce verset qui est très important, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ?» C'est un verset très important. Je fais juste un petit commentaire en passant. C'est que si nous voulons être une bénédiction dans l'Église, il faut d'abord que nous soyons une bénédiction dans nos foyers. Si nos foyers sont en désordre, les églises seront en désordre. Tout commence dans le foyer. C'est là que les choses doivent être mises en ordre. Peu m'importe qui vous êtes, vous pouvez être quelqu'un de formidable en dehors du foyer. Vous pouvez être connu par des millions de personnes en dehors du foyer. Mais si votre foyer est un échec, aux yeux de Dieu, vous êtes un véritable échec aussi. La véritable qualité spirituelle de quelqu'un se voit au foyer. Non pas dans l'église, parce que dans l'église, on peut faire des prières formidables, des prières d'apôtres. Mais la véritable maturité spirituelle, la véritable qualité spirituelle de quelqu'un se voit dans la maison. Parce que dans la maison, les masques tombent, n'est-ce pas vrai? La femme, votre femme vous connaît telle que vous êtes. Votre époux vous connaît telle que vous êtes. Les enfants vous connaissent telle que vous êtes. En dehors, on prend toujours quelques masques. On prend des gants. En dehors, on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Mais dans la maison, vous êtes tout à fait vous-même. Et c'est ce que vous êtes à la maison que vous êtes réellement devant Dieu. Alors vous voyez, quand nous voyons les choses comme cela, je vous assure, il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Et il y a de quoi réaliser que Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Et c'est pourquoi il veut que notre vie intérieure, nos vies dans les foyers, soient des foyers qui aient réellement la bénédiction de Dieu. Plus que jamais, n'est-ce pas vrai? Plus que jamais. Plus que jamais. Alors, lisons encore quelques autres versets. Un deuxième verset. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. 1 Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Là, ce n'est pas bien traduit. On pourrait traduire comme avec un vase plus fragile, plus délicat. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, soulignez bien ce dernier verset qui est important, que nous oublions bien souvent. Qu'il en soit ainsi, donc qu'il y ait de bons rapports entre le mari et la femme, qu'il y ait de bons rapports. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Avez-vous déjà pensé à cela? Lorsque Dieu n'exauce pas notre prière, est-ce que nous pensons à cela? Bien souvent, nous n'y pensons pas. On se dit, peu importe si je fais la tête à mon mari, peu importe si je boude ma femme, peu importe que ça n'aille pas. Et on se demande parfois pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Qu'il y ait de bons rapports afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Lorsque quelque chose ne va pas, lorsque vous voyez qu'il n'y a pas d'exaucement dans vos prières, faites ce que la parole de Dieu vous demande. La première des choses à faire est de voir si tout est en ordre avec votre conjoint. Je sais que ce n'est pas facile. Aller à la racine du mal, ce n'est pas toujours agréable, mais c'est efficace, je vous l'assure. Si nous voulons une vie de prière exaucée, il faut voir les choses comme elles sont, n'est-ce pas vrai? Cela ne sert à rien d'éviter le problème. Cela ne sert à rien de contourner le problème pendant des mois et des années, comme certains le font, et d'accuser un peu tout le monde pour dire « Oh, celui-ci n'a pas de foi, le pasteur n'a pas de foi, le missionnaire n'a pas de foi, le prédicateur n'a pas de foi. » On commence un peu à... n'est-ce pas? Oh, c'est facile, c'est vite fait. « Oh, mais pourquoi il n'y a pas de prière exaucée? » Parce que les autres n'ont pas la foi, parce que l'Église n'a pas la foi. On peut facilement dire beaucoup de choses. Mais on n'a pas le courage de voir les choses exactement comme elles sont. Et que l'obstacle peut être dans le foyer. C'est très important, mes chers amis, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Maintenant, quelques passages dans les Proverbes. Comme je vous ai parlé de confession négative, parce que c'est par notre bouche, finalement, que nous détruisons notre foyer ou que nous pouvons le bâtir. La langue fait un mal terrible dans les foyers, la langue. Alors, lisons quelques versets dans les Proverbes pour vous montrer l'importance de nos paroles, de nos confessions négatives et positives. Proverbes, chapitre 12, verset 18. Proverbes 12, 18. C'est un verset qu'il faut souligner, celui-là. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. » Retenez bien ces versets dans tout le message que nous allons dire. Tel parle légèrement, et combien nous parlons légèrement à la maison. Je parle pour moi-même aussi, ne pensez pas que moi, je vous fais la leçon ici. J'ai aussi mes problèmes pour que cette harmonie, ce dialogue se fasse toujours mieux avec ma propre femme. Ne pensez pas que je n'ai aucun problème. Ce serait un mensonge de ma part. Mais je fais tout ce que je peux pour améliorer. Mais tel parle légèrement et blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. Voyez-vous combien nous pouvons faire du mal par nos paroles? Comme un glaive, comme un glaive. Un deuxième verset, toujours dans les Proverbes. Proverbes 13, 18 cette fois. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Et dans un foyer, bien souvent, nous nous faisons des réprimandes, n'est-ce pas? Mais qui accepte les réprimandes? On est le dernier à accepter une réprimande. C'est toujours l'autre qui a tort, n'est-ce pas vrai? C'est toujours le même disque qui revient éternellement. C'est toujours l'autre. Toujours. Ah, mais vous ne savez pas, monsieur. Vous ne savez pas qui... Mais voyons. C'est toujours l'autre. Oui, toujours l'autre. Et on refuse... Et si nous refusons la correction, qu'est-ce qui se passe? La pauvreté et la honte sont notre partage. La pauvreté spirituelle. Pauvreté morale. Celui qui refuse d'être corrigé, c'est quelqu'un qui devient pauvre, qui s'appauvrit moralement. Spirituellement, on peut être riche matériellement, être pauvre spirituellement et moralement. Et la honte même, la honte. La honte. La honte commence à se manifester dans nos foyers. Pourquoi? Parce qu'on refuse la correction. Mais celui qui accepte d'être réprimandé est honoré. Voyez-vous, il y a une promesse merveilleuse quand nous acceptons d'être repris, même par notre mari, par notre femme, c'est finalement le Seigneur qui le fait parfois, mais nous serons honorés. C'est quelqu'un qui accepte d'être réprimandé, Dieu l'honorera. Et cette personne sera honorée aussi devant sa femme et devant ses enfants, aux yeux de son mari et aux yeux de ses enfants. Un troisième verset, 18-21 cette fois. 18-21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dites, c'est encore un verset extraordinaire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Des foyers sont détruits uniquement à cause de la langue. Votre langue, c'est vous-même qui détruisez votre foyer ou vous le construisez. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Est-ce que nous le pensons? Nous réfléchissons à cela. On ne se rend pas compte combien nos paroles peuvent détruire. Oh, je le dis, sans réfléchir, ah oui, sans réfléchir. En attendant, l'autre reçoit la parole et le mal est fait. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous pouvons donner la vie et nous pouvons donner la mort. C'est à nous de choisir. Il y a un choix à faire. Encore un que j'ai trouvé qui était bien. Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. Regardez quelle parole de sagesse là aussi. Une réponse.
Chaque jour à chaque heure. En moi, tu es ta demeure. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi.
C'est, merci, Seigneur.
Oui, c'est notre prière. À chacun. De mieux en mieux.
De ressembler.
De ressembler. Mieux t'aimer.
De ressembler toujours plus.
Mieux te servir. Mais mieux te refléter dans ce monde.
Dans ce monde de souffrance et de maladie.
Nous sommes la lumière du monde, tu
l'as
dit.
Oh oui, Seigneur.
Donne-nous toujours de briller davantage dans les ténèbres de ce monde. Là où tu nous as placés. Nous voulons et je veux que cette lumière grandisse dans ma vie, dans notre vie, Seigneur. Oh, louange.
Nous voulons t'honorer. Par notre
au
vie,
siècle,
t'honorer par notre vie, te ressembler toujours plus. Seigneur, tu es notre exemple suprême. Toi qui t'es abaissé, qui a quitté ton ciel de gloire pour venir chercher des pécheurs vils tels que moi, pour venir me sortir de la boue. Tu t'es abaissé, et c'est pour cela, tu l'as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, quelle grâce, quelle grandeur d'âme tu as, Seigneur, quelle grandeur d'âme. Combien nous désirons te ressembler dans notre personne, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de vivre et de concevoir les choses. Nous voulons briller comme toi. Toi, tu es la lumière du monde, mais tu nous as exhortés à l'être aussi. Et pour cela, combien nous voulons te ressembler plus, de jour en jour, davantage, afin que nous soyons vraiment cette fleur, ce parfum pour toi.
Un parfum
pour toi. Nous venons de chanter
un
parfum pour toi. Et pour être un parfum, il faut que nous cherchions à te ressembler. Et pour cela, il faut que nous nous abaissions. Il faut que toi tu croisses et que moi je diminue. Il faut que toi tu paraisses et que moi je disparaisse. Seigneur, ce n'est pas moi que les gens doivent voir, c'est toi qui dois voir. Je t'aime, Seigneur. Merci. Je t'aime pourquoi? Parce que tu m'as aimé le premier. C'est toi qui es venu d'abord. C'est toi qui es descendu. C'est toi qui m'as aimé le premier.
Alors que nous étions haïssables.
Oh oui. Haïssables et détestant les autres. Et maintenant, tu as mis dans mon cœur cet amour. Cet amour qui est capable d'aimer les autres. De ton amour. De ton amour, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, ce matin, a parlé très fort. Ce matin, j'ai pleuré ce matin devant sa face. Parce que c'était une fois de plus, beaucoup de fois dans ma vie, le Seigneur est venu me dire, voilà comment je te vois. Et puis ce matin, c'était encore une fois. Et ça fait mal quand le Seigneur nous dit, voilà comment je te vois. C'est pas toujours beau ce qu'il voit. Pourtant, après tant d'années, on peut penser qu'on avait quand même un peu fait des progrès, mais il y a toujours encore des progrès à faire. Encore pour lui ressembler toujours plus. Alors il m'a dit, pour ce soir, pour demain, pour les temps à venir, je suis venu pour m'occuper des faibles. Et pour relever ceux qui sont courbés. Quelqu'un qui est courbé comme ça, incapable de se redresser. L'apôtre Paul a pu dire, j'étais faible avec les faibles. J'ai jamais tellement remarqué ça. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Nous avons tous des personnes faibles autour de nous, plus faibles que nous. Eh bien, à nous de nous abaisser dans leur faiblesse. Lui, il l'a fait. Le Seigneur est venu se faire faible. Faible enfant, il est né. Faible homme, il a vécu, tout en étant Dieu. Mais il s'est abaissé à devenir un homme, avec toutes ses faiblesses. Je me suis, l'apôtre Paul a pu dire, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous. Quand autour de nous, nous avons des personnes faibles, il faut savoir descendre de notre trône, comme on va dire. Nous vous prions, frères, a dit l'apôtre Paul toujours. Nous vous prions, frères, consolez ceux qui sont abattus. Supportez, quoi, les faibles. Au milieu de nous aussi. Usez de patience envers tous. Combien il faut se le dire souvent, cela. User de patience envers tous, supporter les faibles. Et ces autres passages, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Ça, c'est le travail du Seigneur, c'est lui qui le fait. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, un autre passage encore. Alors, cette parole ce matin qui m'a frappée comme une épée dans mon cœur. Mon identité de chrétien. Qu'est-ce que c'est mon identité de chrétien? Mon identité de chrétien se prouve par la façon dont je prends soin des autres. Alors là, on a encore beaucoup de progrès à faire tous. En tendant la main aux plus faibles. Aux plus faibles, aux plus vulnérables parmi nous, à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Alors quand on voit quelqu'un qui est faible au milieu de nous, qui est fragile, alors c'est important de se rappeler que pour aider le faible, il faut qu'on devienne faible nous-mêmes. Puis on est toujours quelque part trop fort. Ah, j'ai dit, Seigneur, ouais, moi je suis, il faut que je descende. Il faut que je descende. Il faut que je me fasse faible aussi pour aider le faible qui est autour de moi davantage. Et puis il y avait, c'est dans une méditation, c'est extraordinaire ce matin, il semblait que toutes les méditations étaient pour moi. Ce matin, il y avait une méditation qui parlait, c'est en anglais je crois, qui parlait d'un petit chien qui se trouvait au haut d'un escalier. Petit chien, bien fragile comme ça, tout petit chien. Et puis il mettait ses pattes au bord de l'escalier qui descendait, puis l'escalier descendait assez raide. Hein? Alors il avait peur, le petit chien, de descendre. Et puis il n'arrivait pas à se lancer. Et puis d'en bas, son patron lui disait, mais descends, descends, je suis là, je t'attends là. Tu peux descendre, descends. Le petit chien, miette, il n'y a rien qui le faisait bouger. Alors, ils ont envoyé un plus gros chien qui est monté et puis qui est descendu l'escalier devant lui, comme pour lui montrer, tu vois, moi je descends, tu peux descendre. Mais ça n'a pas encore suffi. Ça n'a pas encore suffi. Il a fallu encore autre chose. Alors le gros chien, il est remonté en haut. Et puis, il a fait comme le petit chien. Il a mis ses premières pattes sur le bord de la première marche. Et puis après, il les a mis une marche plus bas. Et puis après, une marche plus bas. Puis ses pattes derrière ont suivi. Et ainsi de suite, il lui a montré comment descendre. Et c'est seulement quand le petit chien a vu comment le grand chien descendait qu'il s'est lancé et que finalement il a pu descendre l'escalier. Alors nous aussi, quelque part, il faut qu'on s'abaisse, pareil,
L'exemple.
Qu'on soit l'exemple, comme ce gros chien qui a dû être l'exemple pour le petit chien, pour le faible, hein, ben, il a dû jusqu'à donner l'exemple d'une marche après l'autre. Donc, le Seigneur aussi, lui, il est descendu de son ciel, il est venu s'abaisser jusqu'à nous pour nous montrer comment on peut changer.
Apprenez de moi.
Comment on peut apprendre? Voilà, je suis doux et humble. Oui, apprenez de moi car je suis doux et humble de cœur. Et c'est tellement, ça m'a tellement parlé fort. Ah, j'ai réalisé que dans certaines situations, c'est difficile de s'abaisser vers le plus faible. Mais le Seigneur nous aide, il nous a donné l'exemple. Et il nous aidera à descendre de notre trône. Nous, on n'y arrive pas bien. On est encore toujours trop fort, on est toujours encore trop sûr de nous, on est encore toujours trop autosuffisant. Et puis, j'ai dit, Seigneur, moi, j'y arrive pas non plus. Tu vois, je suis comme le petit chien, j'arrive pas à descendre. Mais toi, tu vas m'aider pour que je puisse m'abaisser vers le plus faible et supporter le plus faible. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu sais parler au travers de choses tellement simples, mais tellement fortes et tellement vraies. Et quand ça nous touche, Seigneur, c'est là qu'il y a quelque chose qui change en nous et que nous ne pouvons plus rester tout le temps les mêmes. Aide-nous, Seigneur, à nous occuper des faibles, parce que toi, tu es venu t'occuper des faibles. Garde-nous de juger les faibles, garde-nous de chercher à améliorer les faibles, à changer les faibles. Ce n'est pas notre problème, Seigneur, celui-là, c'est le tien. Mais nous, que nous puissions nous abaisser pour aider le faible à regarder à toi et à recevoir ton aide. Alléluia, Seigneur. Merci.
Merci
pour cette visitation de ce matin que j'oublierai jamais.
Merci
de m'avoir éclairé. Merci, Seigneur. Tu es fort parce que tu as été faible. Et c'est notre force se trouve dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Et apprenons aussi la patience du Seigneur. La patience. Ce gros chien, il a été patient. Il a fait une première fois. Une deuxième fois, je crois qu'il y a eu trois fois qu'il a dû s'y prendre pour pouvoir faire descendre le petit chien. Mais c'est une image qui reste, qui te reste. Et le Seigneur est patient à l'égard de chacun de nous. Puis quand on se croit...
Pour renouveler son conjoint. Il n'en faut pas beaucoup, finalement. Vous savez, pour être heureux, il n'y a pas besoin d'être parfait, n'est-ce pas vrai? Il n'y a pas besoin d'être parfait. Certains pensent qu'il faut être parfait pour être heureux, pas du tout. En général, les couples qui se croient parfaits, c'est l'enfer dans ces couples. C'est très difficile de vivre avec quelqu'un de parfait. Très difficile. Parce que les gens parfaits sont insupportables. N'est-ce pas vrai? Mais on peut être heureux sans être parfait. On peut être heureux sans être parfait. Tout simplement, en s'acceptant mutuellement, en faisant certaines petites choses qui peuvent complètement transformer un foyer, complètement. Respect et approbation, il y en a pour les deux là, pour l'épouse et pour le mari. Et la parole est donc, qu'est-ce que tu es? Tu as de la valeur à mes yeux. Ah oui, le mari doit dire aussi, écoute, si, voilà, vous pouvez dire une parole, alors là elle va presque tomber par terre. Vous pouvez lui dire, écoute chérie, si je devais me remarier, eh ben, je crois que c'est avec toi. Quand elle entend ça, oh, c'est un choc. Alors elle va vous dire, mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas bien compris. Elle a bien compris, mais elle a besoin d'entendre encore. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Oui, je répète. Dis donc, t'es difficile à entendre. J'ai dit que si je devais me remarier, eh ben... C'est avec toi que je me remarierai. Alors là, c'est l'extase. Et il n'en faut pas beaucoup. Troisième confession positive maintenant. C'est l'amour, c'est en rapport avec l'amour. Et la confession positive est celle-ci. Je t'aime tel que tu es. Voilà une parole qu'il faut dire et redire. Je t'aime tel que tu es. Parce que bien souvent, nous faisons sentir à l'autre qu'on l'aime quand tout va bien, qu'on l'aime quand il ou elle est dans son bon jour. Mais le jour où il y a des problèmes, l'amour disparaît. Ce n'est pas là le véritable amour. La vraie confession qui libère le conjoint, c'est de lui dire « Écoute, chérie, tu n'as pas à mériter mon amour. » Combien de conjoints essayent de mériter l'amour de l'autre, n'est-ce pas vrai? On essaye de mériter l'amour. Si tu fais ça, si tu fais ça. Alors, il y en a des exigences. Les listes sont longues. Si tu fais ça, 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 si tu fais encore ça, tu sais, je t'aimerais. Je t'aimerais, oui, je t'aime bien. Mais le jour où tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu sais, malgré toute ma bonne volonté, c'est pas possible. Alors, comment voulez-vous que ça marche? Je t'aime tel que tu es. Le conjoint doit être aimé inconditionnellement, comme Dieu nous aime inconditionnellement. Amen. Quelle libération! Quelle libération! Quand tu peux dire à ton conjoint, écoute, te casse pas la tête. Je te connais de toute façon, ne cache rien. Je te connais, je t'aime tel que tu es, tel que tu es. Tes qualités, tes défauts, je t'aime, allez! On n'en parle plus, je t'aime, tel que tu es. Quelle libération! Et vous savez ce qui se passe en général? Ça, c'est aimer comme Dieu nous aime. Vous savez, le Seigneur nous aime comment? Inconditionnellement, tel que nous sommes, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose de merveilleux dans l'amour. L'amour de Dieu est un amour rédempteur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand il nous aime tel que nous sommes, ça ne veut pas dire qu'il va nous laisser tel qu'on est. Il nous aime tel qu'on est, mais il ne nous laisse pas tel que nous sommes. C'est un amour rédempteur, un amour qui nous transforme. Et on dit, Seigneur, mais ce n'est pas possible, tu m'aimes tel que je suis. Mais alors, Seigneur, mais... Oh, mais Seigneur, je veux ôter ça dans mon cœur qui te déplaît. Je veux enlever ceci, je veux enlever cela. Et voyez-vous, cet amour inconditionnel et purificateur, n'est-ce pas votre attitude à l'égard du Seigneur? Certainement, n'est-ce pas? Certainement. C'est mon attitude devant le Seigneur, savoir qu'il m'aime tel que je suis. Mais il n'y a rien de tel pour enlever de mon cœur tout ce qui n'est pas à sa gloire. Il n'y a rien de tel. Mais que je sache à un moment donné qu'il ne m'aime pas tel que je suis, alors c'est fini. C'est fini, il y a comme un blocage en moi. Jamais je saurai qu'il m'aime vraiment un jour. Malgré tout ce que je fais, tout ce que je dis, quand est-ce que je serai enfin aimé? On ne le saura jamais. Et c'est ainsi avec beaucoup de couples. On ne sait jamais quand vraiment on est aimé. Une fois pour toutes. Et sans condition, on ne le sait pas, on ne le sait pas. Alors quand c'est dans les bons jours, beaux jours, c'est formidable. Mais quand ça ne va plus du tout, alors c'est la catastrophe. Alors vous pensez bien qu'il ne peut pas y avoir de dialogue. Quand ça s'approche, ce n'est pas un dialogue, c'est une explosion qui se passe. Bon. Quatrième confession, cette fois c'est en rapport avec le sacrifice. Sacrifice. Alors quelle est la parole qui convient de dire « Tes besoins passent avant les miens ». Voilà encore une autre confession positive qui peut faire des miracles. Tes besoins passent avant les miens. Car vous êtes d'accord avec moi, dans le sacrifice, il y a toujours un élément. Dans l'amour, il y a toujours un élément de sacrifice. Et un jour j'ai lu cette pensée qui était formidable dans un livre. Le sacrifice et la respiration de l'amour. C'est beau ça, hein? Et je trouve que c'est vrai. Le sacrifice et la respiration de l'amour. Et le sacrifice, qu'est-ce que c'est? C'est finalement les besoins de l'autre qui passent avant les miens. Combien de fois nous pensons à nos besoins et nous voulons que l'autre pourvoie à nos besoins? Et ça ne va pas. Parce qu'on ne pense qu'à soi-même. Il n'y a pas de sacrifice dans cet amour. Il n'y a pas de renoncement. C'est un amour égoïste. Mais l'amour entre conjoints doit être l'image de l'amour du Seigneur pour son Église. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour qui se sacrifie. Un amour qui dit tes besoins avant les miens. Vous savez, quand vous commencez à dire des choses comme ça, ça vous pénètre dans le fond de votre cœur. Et vous ne pouvez plus être la même personne. Et ça rassure le conjoint. Cela ne veut pas dire que le conjoint va en profiter pour dire, ah oui, ça y est, bon, hein, non, hein, d'accord. Hein, voilà. Alors maintenant, ça sera toujours moi, hein, et puis toi, zéro. Non, 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 non. C'est souvent l'inverse. C'est quand on ne dit pas cela que chacun pense à soi. Mais quand on dit cela, il y a comme un respect qui dit, bon, ben, puisque tu veux penser à mes besoins, eh bien, moi aussi, je vais faire la même chose. Je ne vais pas penser à moi-même, mais je vais penser à toi. À toi d'abord, ce qui te fait plaisir. Je veux avoir cette attitude. Voyez-vous, l'amour engendre l'amour. Le sacrifice engendre le sacrifice. Vous ne pouvez pas demander à votre conjoint ce que vous ne donnez pas vous-même. Avez-vous bien entendu cela? Vous ne pouvez pas exiger quelque chose que vous ne donnez pas d'abord à votre conjoint. Si vous exigez quelque chose que vous ne donnez pas, vous êtes un hypocrite. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez, quand deux hypocrites sont mariés, ça ne va pas du tout, ça. Ah, il y a des explosifs. Il y en a toujours un qui veut tromper l'autre. Eh, les hypocrites, c'est ça. Oui, t'as fait ça, moi je ferai ça, moi je ferai ça. Moi, je veux que ça marche. Mais lorsque je demande quelque chose à mon conjoint et qu'avant de lui demander, je lui le donne, alors je lui donne quelque chose pour qu'il puisse me donner en retour. Mais si vous ne donnez pas quelque chose, si vous exigez quelque chose que vous n'avez pas donné, comment voulez-vous qu'on vous le donne? Oui, c'est tout simple, c'est logique. Alors tes besoins passent avant les miens. Cinquièmement maintenant, le pardon. C'est le pardon. Le pardon. Et quelle est la confession positive? On n'en parle plus. Ça, c'est aussi une parole qui libère. Ça, c'est une confession. La langue des sages apporte la guérison. On n'en parle plus. Quand vous vous êtes pardonné, quand il y a eu un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le dire. Mais écoute, chérie, maintenant, c'est fini. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Mais il y en a... Aïe, 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 aïe. Ah, on vous sert ça sur un plat réchauffé. Attends ça! On met ça au frigo pendant des années. Du frigo, on le passe au four. Attrape ça. Hein? Oui, oui, mais je m'en souviens bien, tu sais. Et tout ça pour essayer de mater l'autre. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Alors, tout à coup, tout de suite, il y a comme un disque qui commence à fonctionner dans la tête de l'autre. Ah, tu me sors ça? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi aussi? Aïe, 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 ça y est. Alors là, vous êtes fichu. Vous êtes fichu. Le négatif engendre le négatif. Le non-pardon engendre le non-pardon. On n'en parle plus. On n'en parle plus maintenant, chérie. Écoute-moi, c'est terminé. Ne reprochez plus jamais à votre conjoint une faute qu'il ou qu'elle a confessée, s'il vous plaît. Il n'y a rien de tel pour briser la communion, le dialogue. Il n'y a rien de tel. Ne revenez plus jamais sur quelque chose qui a été confessé. Ne revenez plus jamais. Et quand vous dites « on n'en parle plus », c'est fini. C'est fini. C'est fini. Quand Dieu nous pardonne, il n'en parle plus, n'est-ce pas vrai? C'est terminé, c'est terminé. Voilà comment nous devons pardonner. On n'en parle plus. Sixièmement, c'est l'honnêteté. La sixième confession est en rapport avec l'honnêteté. Et cette parole, celle-ci, je dirai toujours la vérité dans l'amour. Ce que j'ai à te dire, la vérité que je dois dire, je dois te la dire dans l'amour. Parce qu'il y a toujours deux extrêmes. Les uns disent la vérité sans amour, et les autres, par amour, taisent la vérité. Oui, c'est comme ça dans les foyers, bien souvent. Hein? L'un, c'est, quand il veut dire quelque chose, c'est la vérité. Mais attrape ça, hein? C'est boum, une véritable explosion. Oui, t'as vu ce que t'as fait? Ouh là là, c'est la vérité sans amour. Et l'autre, par amour, par sentiment, on ne dit rien, on se morfond dans ses sentiments. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Mais tu sais que je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais une dépression? Mais c'est rien. Là, on ne s'en sort pas, il n'y a pas de dialogue. Quand vous dites la vérité sans amour, il n'y a pas de dialogue. Quand vous êtes dans l'amour, mais sans vérité, il n'y a pas de dialogue non plus. Prenons la décision d'être honnête et de dire la vérité dans la charité. Et je sais que c'est pas facile, ça. Parce que moi aussi, quand ça bouillonne des fois, poum, ça explose. J'ai dit la vérité, mais rien n'est résolu. Et je dois recommencer après. Et souvent, il y a des pots cassés, alors je dois faire encore le potier. Je dois revenir et dire, écoute, chérie, alors là, oui, je m'y suis mal pris. Au lieu de recoller le pot, je l'ai encore cassé. Alors cette fois, je veux te dire la vérité dans l'amour. Écoute, tu vois, ceci, voilà. Alors, ça passe beaucoup mieux. Je dirai la vérité dans la charité. Ça, c'est quelque chose. Et même la vérité la plus dure sera acceptée lorsque c'est dit dans l'amour, n'est-ce pas vrai? Mais ne dites jamais une vérité si votre cœur n'est pas rempli d'amour. Ne dites jamais, vous allez faire du mal. Vous allez faire beaucoup de mal. C'est comme dans l'église d'ailleurs. Les uns ont la vérité sans amour et les autres ont l'amour sans la vérité, n'est-ce pas vrai? Les uns, ils vous prêchent la vérité, attrape ça, attrape ça, attrape ça. Mais comme amour, on se demande d'où ils viennent, ils n'ont jamais été au calvaire, ils n'ont jamais été à Golgotha. Et les autres, c'est l'amour sentimental. Ah oui, je t'aime, au nom de l'amour, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien du tout. Oh, c'est visqueux, c'est gluant, c'est plus de l'amour. On ne sait jamais, oui, je t'aime. Vous en avez un peu partout. Vous vous demandez s'il ne va pas y avoir quelque chose là derrière. Tu m'aimes, mais dis donc, je voudrais un peu que tu me parles plus, franchement, comme de me dire un peu, que de me parler comme cela. Il n'a que son champion pour passer la pommade dans le dos des gens. Il ferait des bons pharmaciens, mais pas des bons chrétiens. Je dirai la vérité dans la charité. Amen. Et même si vous avez quelque chose à me dire tout à l'heure, dites la vérité dans la charité. Alléluia. Allez, on termine maintenant. Septième confession positive. La fidélité. C'est la fidélité. Fidélité. Et quelle est là, la confession qu'il faut faire là? C'est ce que vous avez fait d'ailleurs, le jour de votre mariage. Je suis avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Je suis avec toi. Je serai avec toi. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil. Qu'il fasse beau temps ou mauvais temps. Dans la bénédiction comme dans la persécution. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Voilà l'amour. Voilà le véritable amour. Amour égale fidélité, n'est-ce pas vrai? Amour égale fidélité. Maintenant, c'est fini. L'expression fidélité, ça ne veut plus rien dire dans ce monde. Mais le véritable amour, c'est un amour qui reste fidèle. Je serai avec toi jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances, les difficultés, dans l'épreuve comme dans la joie, sache une chose. Mon mari, ma femme, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Ensemble, nous irons. Ensemble, nous partirons. Ensemble, nous vivrons. Ensemble, nous nous présenterons devant le Seigneur. Voilà l'amour, le véritable amour, l'amour fidèle, l'amour qui réconcilie, l'amour qui rétablit le dialogue. De telles confessions ne peuvent produire que des miracles, n'est-ce pas vrai? Que le Seigneur nous aide, les uns et les autres, moi le premier, chers amis, à marcher dans les voies du Seigneur et à connaître cet art, l'art de communiquer avec son conjoint. C'est tout un art, n'est-ce pas? Mais le Seigneur est un artiste et il veut nous aider à exceller dans cet art de communiquer avec notre conjoint. Et ce que je vous ai dit ici est aussi valable pour les chrétiens. Vous pouvez prendre ces sept confessions négatives et sept confessions positives dans vos rapports avec votre frère ou votre sœur. C'est exactement la même chose. Vous pouvez apprendre ces mêmes paroles dans l'église du Seigneur. Voilà, je crois que j'ai assez parlé. Que le Seigneur ainsi bénisse sa parole et que nos foyers retrouvent cette bénédiction, ce dialogue. Un miracle est possible. Un miracle est possible. Peut-être que tu as échoué. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'a profondément parlé ce soir. Ne dis pas, oh, j'espère qu'il a bien entendu. Ou s'il n'est pas là, j'espère qu'il changera. Non, quand Dieu parle, il parle directement à la personne. Avez-vous remarqué quand il est dit dans Éphésiens, « Femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes. » Le Seigneur parle directement à chacun. Le Seigneur n'a pas dit aux maris, « Marie, vous direz à vos femmes de vous être soumises. » Parce que beaucoup de maris ont lu le verset comme cela. Combien de maris disent, « Tu sais pas que c'est écrit ?» Tu ne sais pas que c'est écrit que la femme doit se soumettre à son mari. Tu ne le sais pas. Voyez-vous? Comme si le mari était chargé de dire à sa femme, tu dois m'être soumise. Non, non, non. Le Seigneur est assez grand, il s'adresse directement à la femme. Il dit à la femme, femme, sois soumise. Et il dit au mari, mari, aime ta femme. Chacun est responsable. Ne dis pas, chérie, tu as bien entendu ça. Il n'y a rien de tel pour le bloquer. Vous allez tout gâter si vous faites ça. Vous allez tout gâter. L'autre va penser, ah bon, tu as écouté tout ça en pensant à moi? Eh ben, zéro!
Eh ben, 0, 0. Non, alors ne gâchez pas tout. Ne gâchez pas tout. Pensez à vous-même. Faites ce que le Seigneur vous demande. Changez dans les domaines où il faut changer. Et le Seigneur fera le reste, dans le cœur de votre épouse aussi. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te louons pour ta merveilleuse parole. Nous te louons pour la sagesse que nous donnent les Écritures pour résoudre les problèmes que nous avons dans nos foyers, Seigneur. Qui peut dire qu'il n'a pas de problème ? Nous en avons, Seigneur, et nous voulons accepter que tu apportes la guérison, la purification, la communion, le dialogue. Nous voulons obéir à ta voix et être comme cette langue du sage qui apporte la guérison. Nous voulons ne plus parler légèrement et blessé comme un glaive, mais comme un sage apporter la guérison. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à faire ta volonté pour ce qui le concerne personnellement. Et c'est ainsi que ton œuvre se fera dans nos foyers, et par nos foyers dans l'Église, et par l'Église dans le monde. Pour la gloire de ton saint nom, Seigneur. Amen.
Yeah.